Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale, hein? Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère.
Ça tourne ?
En fait, ce que j'aurais voulu être, c'est un grand musicien de jazz, partir en tournée, jouer dans les salles pleines de monde, enregistrer en studio. J'aurais voulu être un grand pianiste de jazz, comme Fearlessment. Mais vous avez entendu comment je joue Bam Che Swing. Alors, au lieu de ça, je préfère vous proposer de passer la soirée en compagnie de tous ces noms prestigieux, Chet Baker, Charles Mingus, Bud Powell, Thelonious Monk, John Coltrane, Charlie Parker. Bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire du jazz en 3h30, ça c'est sûr. Je vais plutôt vous raconter des histoires de jazz.
Du générique de Soul Bass pour Autopsie d'un meurtre d'Otto Preminger, déroulant ses fastes mystérieux sur une musique qui m'entraînait irrésistiblement. C'était ma première rencontre avec Duke Ellington, et quelle première rencontre! Quand James Stewart est descendu de sa voiture, toujours sous les volutes ellingtoniennes, j'étais au ciel. Et puis, toujours dans Autopsie d'un meurtre, quand j'ai découvert que Jimmy improvisait avec le Duke, alors là, c'est bien simple, j'ai cru que j'allais avoir une attaque. Je m'en suis remis, bien sûr, Et peu à peu, j'ai découvert qu'Ellington n'avait pas seulement écrit la musique d'Autopsie d'un meurtre, mais aussi, 2 ans plus tard, celle de Paris Blues de Martin Reith, où j'ai d'abord vu, mais surtout entendu, quelques solistes assez célèbres pousser un Take the A-Train très apprécié des spectateurs. Comme je les comprends. Mais dans Paris Blues, j'aimais encore davantage cette promenade dans Paris, du Sacré-Cœur à la Tour Eiffel, idéale pour les amoureux. Et oui, flâner dans Paris en écoutant du Duke, je ne vois vraiment pas ce qu'il peut y avoir de plus désirable. À part peut-être se retrouver dans une ville italienne, dans la lumière d'un matin de 1962, toujours en compagnie d'Ellington. Pour info, c'était dans Renzo e Luciana de Mario Monicelli, le sketch de Boccace 70. À part ça, Ellington avait aussi composé en 1966 la BO du Hold Up du siècle, une BO qui donnait vraiment envie de plonger sous les yeux de la sublime Virnalisi. En cherchant bien, j'avais trouvé une autre BO d'Ellington, assez magnifique je dois dire, celle de La peau d'un autre, un film de Robert Stevens, dans lequel le cerveau d'un homme blanc est transporté dans le crâne d'un homme noir. Un film où cette séquence d'une sensualité absolue m'avait fait encore plus aimer cette BO d'Ellington. Sinon, pour revenir largement en arrière, le Duke avait en fait commencé sa carrière beaucoup plus tôt au cinéma. Très exactement en 1943, dans Cabin in the Sky, le premier film de Minnelli, et particulièrement dans cette séquence où il est royal au piano. On est aristocrate ou on ne l'est pas. Bien plus tard, en 1985, j'avais aussi croisé un Duke Ellington de fiction, assez sympathique, dans Cotton Club de Coppola. Ce même Cotton Club où j'adorais ce ballet ellingtonien qui ouvrait le film. D'un ballet à l'autre, je me laissais entraîner dans The Artist, sur ce Jubilee Stomp du Duke. Et puis de fil en aiguille dans cette séquence assez réjouissante de la famille Adams, Showtime, où je retrouvais un de mes standards préférés, The Mooch. De standard, j'avais un petit faible pour It Don't Mean a Thing If You Ain't Got That Swing, et plus spécialement pour cette performance très entraînante dans Francis, le biopic de Francis Farmer réalisé par Graham Clifford. Une performance qui cependant ne valait pas tout à fait celle totalement ébouriffante de Betty Boop et ses amis sur le même It Don't Mean a Thing.
La première question que l'on a posée à Duke Ellington à l'issue du festival de Dakar, c'est: Duke Ellington, venez-vous pour la première fois en Afrique?
Oh, the first time. Yeah. This is my first time in any part of Africa. Of course, I've dreamt of it so much and written so much pseudo-African music because that my distance, of course, it would have to be imitation.
Eh bien, Duke Ellington répond à cette question avec une modestie vraiment admirable. Il dit, c'est en effet la première fois, et il dit, j'ai tant rêvé de ce voyage, et j'ai tant écrit de pseudo-musique africaine. Jusqu'à présent, c'était mon imagination qui travaillait, maintenant je suis à la source, et au long de l'interview, Duke Ellington insistera sur la difficulté, la complexité de la musique africaine, et le fait que s'il avait cru inclure dans sa musique à lui quelques éléments africains, bien ma foi, il s'était trompé.
Well, I don't write from the perspective of or perform from the perspective of one who was trying to interpret jazz. I mean, it's a personal thing because jazz is.
Duke Ellington dit, ben d'abord, il ne faut pas confondre les spirituals et les blues. Et d'après lui, les blues ne sont pas vraiment, n'expriment pas vraiment un sentiment de tristesse, de désespoir, mais c'est plutôt pour lui le sentiment d'un amour frustré, d'un amour non partagé. Et là, il faut alors bien indiquer que c'est Duke Ellington lui-même qui est l'auteur de cette théorie selon laquelle les blues ne sont pas des chants de protestation, de revendication sociale ou raciale, mais l'expression d'un amour malheureux non partagé. Mais alors là, je crois qu'il faut lui laisser à Duke la responsabilité de cette théorie.
Oui, c'est une théorie, blues, n'est-ce pas, théorie très hegelienne d'ailleurs, hein, la conscience malheureuse, sa conscience déchirée.
Well, you know, by not considering the word jazz, you think of it in terms of music. And you say it's consistent with the original theory that it's all personality. It's a personal thing. It's not.
Thank you.
Peu à peu, je me suis senti de plus en plus alangui, et là j'ai croisé avec bonheur ce In a Sentimental Mood au piano, dans la partie de All Night Long, un film peu connu de Basil Dearden en 1962. La partie en question était quand même assez sélecte, puisqu'on pouvait y retrouver au piano Dave Brubeck, et puis, un peu plus tard, à la contrebasse, Charles Mingus. Le genre de partie auquel j'aurais vraiment adoré participer. Bon, revenons à nos moutons, en l'occurrence à Duke et à son répertoire avec ce Caravan puissant et addictif à la fin de Whiplash, le premier film de Damien Chazelle. Pour un peu de repos, j'ai eu besoin d'une sophisticated lady, et celle de conversation secrète, un peu sombre et un peu lointaine, m'avait assez plu. Et finalement, je préférais la version d'Ella Fitzgerald qui magnifiait ce chef-d'œuvre ellingtonien et qui accompagnait assez étrangement cette femme évanescente, un peu fantomatique, descendant l'escalier dans Martha, Marcy, May, Marlene. Cette même Ella Fitzgerald dont je me souvenais avec un immense plaisir dans une séquence de Malcolm X de Spike Lee, dans une de ses performances dont elle avait le secret sur ce Drop Me Off in Harlem, composé par qui ? Bah, par Duke Ellington, bien sûr. I don't want your Dixie. You can keep your Dixie. J'avais envie de poursuivre cette promenade ellingtonienne en chanson et cette danse de Meg Ryan dans When Harry Met Sally sur Don't Get Around Much Anymore me mettait d'excellente humeur. Tout comme ce satin doll dans Y a-t-il un flic pour sauver le président? Ou par ailleurs, la simple apparition de Nelsie Nilsson me faisait hurler de rire. Sinon, dans un registre plus rêveur, je me suis souvenu de ce Lotus Blossom, toujours signé Ellington, au beau milieu d'un champ investi par une équipe de baseball fantôme, dans le très beau Jusqu'au bout du rêve de Phil Alden Robinson. Un film à redécouvrir, c'est moi qui vous le dis. Et puis, comme je n'en avais pas encore assez, j'ai mis le cap sur Susie et les Baker Boys, où le couple glamour et mélancolique formé par Michelle Pfeiffer et Jeff Bridges se mariait parfaitement avec ce beau Do Nothing Till You Hear From Me. D'un couple à l'autre, j'ai croisé sur ma route Philip Seymour Hoffman et Joaquin Phoenix, nettement plus inquiétant, dans The Master de Paul Thomas Anderson, sur ce Dancers in Love qui m'a fait revenir aux premières années du Duke. Et là, évidemment, je me suis souvenu d'un solo inoubliable, celui de Patrick Devers, se déhanchant singulièrement sur le Moonlight Fiesta d'Ellington et de Juan Tizol, une sorte de sommet. Et curieusement, ça m'a fait penser aux bestioles sublimement filmées par Jean Painlevé au son de Black and Tan Fantasy du Duke. Là non plus, je ne l'ai jamais oublié.
Gestes terribles ou gracieux.
Tout ça m'avait donné envie de rester sur ce style un peu jungle, et là tout de suite, cette danse élastique dans l'écume des jours de Michel Gondry m'allait parfaitement. D'autant plus que dans l'écume des jours, il y avait aussi, en ouverture, cette chorégraphie dactylographiée sur le standardissime Take Thee a Train. Thank you. Parfois, les films sont comme des trains qui foncent dans la lumière du matin. Et quand le chauffeur s'appelle Duke Ellington, on voudrait que ça ne s'arrête jamais. Et d'ailleurs, ça ne s'est jamais arrêté.
J'ai lu un article sur vous dans un magazine. Vous ne m'aviez pas dit que vous étiez un musicien si célèbre. Mon cul, ça ne veut rien dire. C'est un système dont se servent ceux à qui nous appartenons. Ils nous rendent célèbres et nous donnent des surnoms. Roi de ceci, comte de cela, duc de je ne sais quoi. De toute façon, nous mourrons dans la dèche. Je pense parfois que j'aimerais mieux mourir que d'affronter le monde des Blancs.
Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi... Moustaki, c'est mon frère.